Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est rendu extrêmement habitué à utiliser les médias sociaux et on est extrêmement aussi habitué au code visuel, au code de communication qui accompagne ces réseaux-là. Évidemment, il y a d'autres réseaux qui apparaissent, puis souvent, ils sont modelés de la même façon que les réseaux existants. Donc, avec différents principes que quelqu'un écrit, qu'on répond directement en dessous, qu'on peut envoyer des messages privés, qu'on peut poster de l'information d'une certaine façon. Et ça, c'est simplement parce que c'est la façon qu'on est habitué de le faire, pas nécessairement parce que c'est la meilleure pratique ou parce que c'est la meilleure solution pour communiquer sur le web. On s'en rend pas toujours compte, mais ça, on s'en rend compte quand on utilise des nouveaux réseaux, comme par exemple le réseau Hello qui est apparu récemment. C'est tellement déstabilisant d'avoir à travailler avec une autre plateforme que la plupart des gens font pas l'effort d'apprendre les nouveaux codes de la nouvelle plateforme et cherchent tout simplement à répéter ce qu'ils font actuellement dans Facebook et dans Twitter. Évidemment, il y a plusieurs aussi bien-pensants du web qui ont donné une courte durée de vie à cet outil-là, à Hello, justement du fait que ça fonctionne différemment. Moi, au contraire, je trouve que c'est sa force. C'est vraiment hyper intéressant d'essayer de trouver des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de communiquer, de se répondre sur le web sans avoir exactement à fonctionner comme ça se passe dans Facebook, par exemple, ou dans Twitter. En fait, pour moi, c'est un peu comme apprendre un deuxième langage. Où est-ce que on a d'autres codes et comme visiter un autre pays où est-ce que les gens ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon que nous. Ça nous pousse à apprendre d'autres codes, ça nous pousse à nous questionner, ça nous pousse à avancer. Et tant qu'à moi, c'est un peu ça le web. C'est d'essayer d'avancer, de faire changer les choses, d'améliorer les choses et de se questionner pour soi-même évoluer. Parce que si on n'évolue pas, ben on fait du surplace. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez le Québec en balado-diffusion.
ours can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt.
Et ça fait du bien, une petite power song comme ça. Vous m'entendez en direct de mon auto parce que, bien évidemment, trouver le temps de faire un podcast, parfois, ça peut être difficile dans mon cas. Et je me suis dit que j'avais pas de bonne raison de pas en faire parce que j'ai tous les outils qu'il faut sur mon iPhone que je peux simplement partir l'enregistrement, puis ça va se faire. Donc, on n'a pas exactement la même qualité sonore que d'habitude, mais au moins vous avez mes belles paroles et ma voix suave dans vos oreilles, bien sûr. Oui, Vertigo, la chanson de U2, parce que ça dit Hello, Hello, et puis que ben, je vous parle du réseau social Hello, qui est sur invitation. Si on est soi-même invité sur le réseau, on se retrouve par la suite avec 5 invitations à distribuer que j'ai toutes distribuées assez rapidement. Les gens veulent rapidement aller essayer. Mais les gens se découragent vite aussi. Ce qui est un peu con, c'est que les gens vont faire un tour pendant 10 minutes. Ils se posent pas la question comment ça marche. Ils voient que ça fonctionne pas comme d'habitude. « Ah, je trouve pas, c'est con. Bye, je m'en vais. » C'est un peu bizarre comme attitude. Ou bien certaines personnes, certains bien-pensants du web viennent deux fois, 10 minutes de la shot, puis ils sont déçus ou ça fonctionne pas comme ils veulent ou ils trouvent pas des gens intéressants à suivre. Fait que ils disent « Ah, ça fonctionnera pas cette affaire-là. » Mais moi, je gagerais pas que ça va fonctionner ou que ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnera pas, mais... c'est quand même une belle plateforme, hyper épurée. On ne peut pas nécessairement envoyer de message direct, privé, là-dessus. Tout se passe de façon publique. La façon de répondre n'est pas pareille que sur les autres réseaux. Contrairement à Facebook, les réponses ne s'affichent pas en ordre chronologique. Ils s'affichent, oui, en dessous du commentaire principal, mais... Le premier commentaire en dessous, c'est le plus récent, c'est pas le plus vieux. Fait que pour reprendre la conversation, il faut descendre puis revenir. Ce qui est pas évident, c'est pas les mêmes codes que d'habitude, mais j'haïs pas ça. C'est une plateforme épurée, tout est en fond blanc, typo noir, hyper simple. Sauf que il y a des code pour pouvoir rentrer des images, rentrer des liens, pour pouvoir surligner du texte en gris, ce genre de choses-là. Donc, on apprend peu à peu à faire fonctionner cette plateforme-là. Puis j'avoue que il y a un côté un peu geek là-dedans, c'est-à-dire de bricoler pour aller rentrer les liens, pour aller faire des effets dans le texte, tout ça. Donc, ouais, c'est sympathique. Puis, comment je pourrais dire, j'ai le même plaisir que quand j'ai commencé un peu plus activement à être sur Twitter, OK? Je me suis inscrit autour de, je pense que c'est 2007 sur Twitter. Puis c'était un peu la même situation. On savait pas trop à quoi ça servait. On connaissait pas tous les codes pour pouvoir répondre, retweeter, etc. C'est sûr que... la plateforme Twitter s'est développée au fur et à mesure de l'utilisation. Souvent, il y a des fonctions qui ont été ajoutées, comme par exemple le retweet, parce que les gens le faisaient manuellement auparavant. Donc, Twitter a ajouté la fonction et l'a automatisée. Donc, moi, je trouve ça le fun parce que il y a des nouveaux codes qui apparaissent, il y a des nouvelles façons de faire, on essaie des choses, c'est très vivant. Et moi, je trouve ça absolument parfait. Puis qu'il y ait un compétiteur au Facebook et Twitter de ce monde, je trouve ça parfait aussi. J'aime la diversité, j'aime essayer différentes choses et c'est très bon. C'est un réseau qui se veut sans publicité, un peu, entre parenthèses, anti-corporatiste. Donc, il y a quand même des entreprises qui ont se sont ouvert un compte, il y a quand même des organes de presse ou des sites web d'information qui ont une présence sur Hello, ce qui est correct aussi. Mais on met l'emphase par un peu plus sur l'individu, un peu moins sur l'entreprise, un peu plus sur le texte, un peu moins sur la vidéo, les effets visuels et tout ça. Je dis ça, puis en même temps, dernièrement, là, ça évolue de jour en jour, puis là, il y a beaucoup de GIFs animés. Des fois, dans mon fil, je peux voir 10-15 GIFs animés de suite de plein de personnes différentes. Et j'espère que c'est une mode qui va passer parce que, oui, c'est drôle une fois de temps en temps, mais tout le temps. Moi, je trouve ça un peu ennuyant. Je trouve que c'est quasiment mieux avoir juste du texte. Un peu comme Twitter à l'époque, quand ça a commencé, il y avait zéro image, zéro vidéo, rien dans notre fil, juste du texte. Puis je trouvais que ça faisait du bien comparé à Facebook et autres plateformes de ce monde. Hello, c'est une plateforme, oui, indépendante, mais ils sont allés en financement avec ça. Ils ont eu un peu moins de 500 000 $. C'est du capital, du venture capital du Vermont. Donc, c'est tout près de nous autres ici au Québec. Donc, ils ont eu de l'argent pour développer ça. Évidemment, ils se font critiquer par certaines personnes parce que, comme toute entreprise qui va chercher du capital de risque, quand ils font ça, il faut qu'ils prévoient leur sortie. C'est-à-dire, un coup que la plateforme va grossir puis qu'il va y avoir plus d'usagers, à qui on va vendre, comment on va vendre et à quel prix. Et toute entreprise, toute start-up de ce type-là a vraiment une stratégie pour savoir comment on va sortir, c'est-à-dire comment on va vendre notre truc. Il y a des gens qui critiquent ça. Il y en a qui disent « Ah, ben regarde Facebook, quand ils se sont développés au départ, il n'y a pas eu de venture capital, c'était indépendant, etc., etc. » Oui. Je peux croire, sauf que, on ne se le cachera pas, là. Mark Zuckerberg a vraiment exploité du monde. Et quand ils ont commencé à avoir du capital un peu plus, il y a des gens qui étaient là depuis le début, il y a des gens qui ont promis de l'argent et qui se sont retrouvés sans aucune action de Facebook, même s'ils ont mis du temps et ont développé la plateforme. Donc, moi, ça ne me dérange pas, outre mesure. C'est sûr, ce qui me dérange, c'est que si on investit soi-même du temps à avoir une présence sur une plateforme et qu'elle est par la suite abandonnée ou rachetée et simplement fermée, ça me dérange un petit peu plus. Mais sinon, regardez, moi, pour le développement, il n'y a pas beaucoup d'options. Hein? Soit que, justement, on va chercher de l'argent pour développer, puis c'est sûr que ça va faire en sorte qu'on planifie comment on va vendre. Ou sinon, bien, on fait comme Mark Zuckerberg et on exploite les gens tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de solutions entre les deux, il faut dire. Donc, vous pouvez aller essayer. C'est sûr que Hello sont victimes de leur succès en ce moment. Ils ont de la difficulté à gérer la croissance. Fait qu'ils ne distribuent pas à gauche et à droite des invitations. Faut aller s'inscrire pour demander lorsqu'il y aura des invitations de prêtes de nous en envoyer. Sinon, ben, il y a des sites un peu de hacker où est-ce que il y a des codes disponibles. Vous pouvez chercher ça, vous allez trouver. C'est assez drôle. Il y a même des invitations qui se sont vendues à un moment sur Craigslist et eBay. Mais là, je pense que cette folie-là est passée parce que maintenant, il y a un peu plus de gens sur la plateforme. puis ça va. Et de jour en jour, le site a une croissance phénoménale au niveau de la fréquentation. Si on compare les sites les plus fréquentés dans chaque pays, à chaque jour, là, ça monte. C'est absolument hallucinant. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour, voir si vous pouvez être membre ou quoi que ce soit. Sinon, ben, attendez d'avoir une invitation d'un ami. Ça me permet de vous parler légèrement d'un sujet, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais comment c'est rendu un peu insidieux sur les médias sociaux, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le spin médiatique parfois pour les organes de presse, mais aussi le spin en général des gens, les gens qui n'écrivent sur Facebook que dans le but d'obtenir des réponses et dans le but justement d'obtenir des likes et avoir de l'activité sur leur profil. C'est sûr qu'on est tous comme ça, on est tous à la recherche d'attention, les êtres humains, c'est normal, mais je trouve ça un peu insidieux ce qui se passe en ce moment où est-ce que les gens formatent leurs textes et formatent leurs titres simplement dans le but d'avoir des clics. Et peu importe ce qui se passe par la suite. Donc, les organes de presse sont très friands de ça. Et de plus en plus, ils utilisent des titres du genre « Oh, cette fille-là a, par exemple, a sauté de la falaise et voici ce qui est arrivé par la suite. » Tu sais, on te dit pas ce qui se passe, là. Faut que tu cliques absolument pour voir. Puis ça m'achale. J'ai clique même plus, je regarde même plus. Je trouve ça tellement ridicule. Et donc, cette pratique-là s'est répandue dans la population en général où est-ce que les gens n'écrivent que dans le but de générer du like, générer du clic, générer du commentaire et ne sont pas intéressés par les réponses, justement par les commentaires. J'en ai même dans mes amis qui font ça. Il y en a même à qui j'ai dit « Regarde, tu sais, je t'aime bien comme personne, je t'aime bien quand on se parle en personne puis on se rend compte, mais sur Facebook, je réponds plus à tes affaires, tu sais. » Parce que, justement, je réponds et c'est pas toujours le cas, mais à l'occasion, j'ai des réponses intelligentes ou j'ai une question par rapport au sujet et la personne ne me répond pas à son tour. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle répond dans le but d'obtenir d'autres commentaires supplémentaires. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça, quelque part, pathétique de juste vouloir obtenir de la traction. Parce que c'est du vent. C'est complètement du vent. Ça sert rien. Ça sert juste à faire mousser la popularité de la personne sur les réseaux sociaux. Et ça n'entraîne pas de véritables échanges, de véritables discussions. Au contraire, ça fait des échanges qui sont parfois très stériles, qui sont, comment je pourrais dire, parfois rigolos, c'est sûr. Ça entraîne souvent des commentaires drôles. Et ça dégénère souvent, et évidemment, quand ça se met à dégénérer, ça génère de plus en plus de commentaires, puis la personne est super contente d'avoir autant de commentaires que ça, mais c'est très vide. Je trouve, contrairement à ce qui s'est passé au départ sur les réseaux sociaux, dans les premières années, en ce moment, plus ça va, plus ça, c'est vide ce qui se passe là-dessus. Et je trouve qu'il y a un petit retour du balancier, le fait d'aller sur Hello, où est-ce qu'on est obligé de parler avec du texte, d'avoir moins d'images, il n'y a pas de like. Fait qu'on peut pas juste dire « Ah, c'est cute ce que tu as dit ». Si on veut que la personne sache qu'on apprécie, il faut lui répondre. Il y a une interaction obligatoire qui se fait, donc ça, c'est le fun. Dans toute cette idée de spin médiatique et de 15 minutes d'attention sur le web, il y a toute l'histoire du iPhone 6 et du Bandgate qui est absolument d'un ridicule profond. On peut être fan ou pas des produits Apple, et c'est même pas ça le sujet, là. On s'en fout que... Et ça pourrait même pas être à propos d'un produit d'Apple, ça pourrait être à propos de n'importe quel produit, là. Mais ce qui s'est passé, bon, vous avez peut-être entendu parler, l'iPhone 6, qui est très mince, qui a un très grand écran, l'iPhone 6 Plus est encore plus grand, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a commencé à poster un vidéo avec sa main, il a plié le iPhone qui s'est brisé et qui n'a pas repris sa place et tout ça. Et là, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les gens, en fait, ont ridiculisé Apple. Évidemment, tous les gens qui sont fans de produits Android ou de fans de Samsung ridiculisent Apple à tour de bras. Même Samsung a fait une publicité avec un iPhone plié puis qui disait le iPhone se plie devant son maître et son maître étant un appareil Samsung. Et tout ça, pourquoi? Ben, pour une vidéo qui s'avère probablement truquée, parce que les gens qui ont analysé la vidéo, ils ont remarqué que après que l'appareil soit plié ou pendant qu'il était plié, l'heure sur l'appareil était plus tôt que l'heure avant qu'il soit plié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui est absolument ridicule. Donc, c'est un montage pour nous faire croire que c'est arrivé. Parce que Apple, au bout de 2 semaines, a dit, regardez, on a eu juste 9 retours en tout d'iPhone qui avaient un problème relatif avec quelque chose qui peut s'apparenter à un pliage ou à un écran décollé. Okay. Ça, c'est après 2 semaines. Quand on sait que le premier week-end s'est vendu 10 millions d'unités, au bout de 2 semaines, on était peut-être à 25, 30 millions, peut-être plus. Et là-dessus, on avait juste 9 unités problématiques, ce qui est un score absolument phénoménal pour un produit électronique neuf sur des dizaines de millions. Donc, tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout ça, c'est du spin. Et moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est tous les organes de presse qui se veulent sérieux. Et on nous vante là, le fait que, bon, les journalistes sont rigoureux, sont sérieux. Et on nous dit que c'est encore important en 2014 d'avoir de vrais journalistes qui ont une rigueur, etc., etc. Puis, eux, ils font juste retweeter, republier la nouvelle. Ils ne s'informent pas, ils n'essayent pas de savoir si c'est vrai. Ils ne communiquent pas avec Apple. Ils font juste faire du spin eux aussi parce que ça leur rapporte des clics. De plus en plus, je trouve plusieurs médias absolument pathétiques dans leur course aux clics et à l'attention. Donc, est-ce que ça valait la peine de faire couler autant d'encre ou de pixels sur l'écran pour quelque chose qui est plus ou moins vrai? Il y a matière à se poser la question, c'est sûr. Parlant de spin médiatique, tout ça, une autre nouvelle qui concerne Apple que vous avez tous entendu parler, et c'est pour ça que j'ai fait jouer la chanson de U2. Les chansons gratuites de U2 suite au lancement du nouvel iPhone. C'est un drôle de sujet parce que Apple a donné gratuitement les chansons de U2. Et là, non seulement ils les ont données gratuitement, mais ils sont apparus dans la liste de lecture des gens s'ils étaient connectés à l'Internet. Donc, si leur appareil électronique iPhone était connecté à l'Internet et qui avait activé la fonction cloud, à ce moment-là, dans leur liste de lecture, même s'ils ne l'avaient pas sur leur ordinateur à la maison ou même s'ils ne l'avaient pas téléchargé, visuellement, ça apparaissait là. Évidemment, ça a soulevé un tollé qui aurait pu être très... et qui, dans le fond, c'est extrêmement banal, là. Des chansons gratuites qui apparaissent dans notre liste de lecture. Y a-t-il quelque chose de plus banal que ça? On n'est même pas obligé de les écouter. Et ils ne sont même pas téléchargés sur notre appareil. Il faut manuellement les télécharger pour que ça marche, là. Et là, les gens ça a soulevé un tollé. Les gens se sont plaints, patati patata. Il y a eu des critiques contre YouTube qui étaient pas, qui sont pas bons, puis etc., etc. Mais je me dis, pourquoi tant d'attention? Pourquoi les gens accordent autant d'importance au chialage sur les réseaux sociaux? On dirait que c'est rendu la nouvelle norme. Il faut chialer, il faut se plaindre. Même s'il n'y a pas grand-chose à se plaindre, c'est totalement inoffensif d'avoir des chansons gratuites dans son iPhone. On n'est même pas obligé de les écouter. Puis de toute façon, après un mois, ça disparaissait si on ne les téléchargeait pas soi-même. Donc, Apple s'est rétracté après un bout de temps, puis il a fait en sorte qu'ils n'apparaissent pas, tout ça. Puis moi, je veux dire, je ne me serais même pas rétracté à la place d'Apple. J'aurais, au contraire, dit, regardez, c'est un cadeau, c'est gratuit. Take it or leave it. Et ça finit là. J'en reviens pas. Comment on fait une montagne avec rien? Absolument rien, là. Alors que, tu sais, on se préoccupe-tu des milliers de personnes qui meurent chaque jour de famine dans le monde? Non, on s'en fout. Hein, mais c'est très, très grave que des chansons apparaissent dans notre lecteur. Cadeau de Apple, la compagnie qui a fabriqué notre appareil. C'est sûr qu'on a soulevé aussi des questions de sécurité par rapport à ça. Ils ont dit, bon, ben, si vous garantissez une sécurité sur votre iCloud, pourquoi vous jouez dans notre iCloud personnel et vous nous mettez des chansons là-dedans? Et là, il y a plusieurs journalistes, même des journalistes techno super sérieux, qui ont fait du spin là-dessus. Et moi, ça m'a dépassé à quel point ces gens-là, qui se disent très connaissants, ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Est-ce qu'ils pensent vraiment que, tu sais, il y a, je me rappelle plus combien, mais au-dessus de 100 millions de comptes iTunes, est-ce qu'ils pensent vraiment que Apple a déposé 100 millions de fois cet album-là dans les comptes iCloud de ces gens-là? Non, ce n'est qu'une liste et un lien vers les fichiers originaux. Oui, Apple en a quelques copies sur ses sites pour être sûr d'avoir de la redondance pour que s'il y a une demande, les fichiers, bon, ça ne congestionne pas les serveurs. Mais c'est pas vrai qu'il y avait 100 millions, puis c'est pas vrai qu'ils sont allés déposer ça physiquement dans notre dossier personnel. Ce n'est qu'un lien, ce n'est qu'une apparence. Donc, ça ne compromettait pas en rien la sécurité du iCloud. La sécurité du iCloud qui a été questionnée suite au CelebGate, que vous avez peut-être entendu parler, lorsque des photos de personnalités connues ont été récupérées, soi-disant par des hackers, des photos compromettantes, des photos nues de certaines célébrités, tout ça. Et il s'est avéré que plusieurs de ces photos-là n'avaient pas été prises avec un iPhone, mais avec d'autres appareils et avec d'autres services. Et que ceux dont les photos étaient sur le iCloud, ces gens-là avaient mis leurs photos publiques. Donc, il n'y a pas de problème de faille de sécurité sur quelque chose qui a été laissé public. C'est juste que ces gens-là étaient trop cons pour utiliser correctement le service ou de pas mettre, de pas prendre des photos d'eux-mêmes de nus tout simplement avec leur appareil, en sachant qu'on a un service qui peut mettre nos photos publiques. Donc, encore une fois, un faux débat, un faux problème dont on a parlé, et même lorsque toute cette information-là a été connue qu'il n'y a pas eu de faille de sécurité, les gens continuaient à taper là-dessus et à rire de ça, et même encore une fois, des gens qui étaient soi-disant des journalistes techno sérieux étaient extrêmement mal informés. Et ça, je trouve ça pathétique. L'information est là. Il faut faire de la recherche, il faut s'informer. C'est la moindre des choses lorsqu'on est un chroniqueur. Et je trouve que certains chroniqueurs ne font pas leur travail. Ils continuent à faire de la désinformation. Pourquoi? Peut-être encore une fois parce qu'il y a du spin et ça leur fait du bien à leur ego de spinner là-dessus. Eux autres aussi, je le sais pas. tout ça pour revenir au iPhone 6 et au Bandgate. Je n'ai pas encore l'iPhone 6. Ce sera assurément mon prochain appareil. Pourquoi je ne vais pas vers un appareil Android ou j'ai pensé aussi aller vers un BlackBerry? Ben c'est question pratico-pratique. Pour le travail, je travaille avec des ordinateurs Mac. Il y a une meilleure compatibilité. Je peux changer les diapositives dans Keynote avec mon iPhone et avoir mes notes là-dessus. Le transfert de ma musique se fait facilement. J'ai un Apple TV, donc oui, les photos aussi s'affichent. Tout ça est intégré. C'est tout simplement d'un côté pratico-pratique. Et aussi parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé plusieurs fois le système Android. J'ai essayé plusieurs appareils. J'ai essayé de modifier des configurations. Ben, je l'ai fait, mais c'est moi, je trouve ça tellement gossant. Et si, en plus de ça, je suis obligé d'aller transférer ma musique manuellement, mes podcasts manuellement, non. Moi, il faut que ça soit automatique. Je ne veux pas être obligé d'installer des patchs, d'installer des plugins, puis utiliser 10 affaires, puis bidouiller pour que ça marche. Moi, je veux juste que ça marche. Et ça marche avec les produits Apple, vu que j'ai des ordinateurs Apple, tout simplement. Je vous disais que j'ai considéré BlackBerry. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux autres qui ont un des meilleurs systèmes d'exploitation. Peu importe, BlackBerry a eu mauvaise presse, BlackBerry a mis du temps avant de développer des nouveaux produits, mais que vous le vouliez ou non, le système fonctionne généralement mieux que Apple ou a des fonctions avancées, où est-ce qu'on n'a pas à retourner dans des menus puis des sous-menus, mais où est-ce que la fonction est juste là, on tient enfoncé ou on fait un petit mouvement vers la gauche puis il y a une palette qui se déploie puis la fonction est directement accessible. BlackBerry a un meilleur système pour ces petites fonctions-là. Leurs petites fonctions sont mieux intégrées que Apple, mieux intégrées que Android 10 fois, c'est sûr. Donc, j'y ai pensé, mais comme je vous dis, c'est toute l'intégration de mon système qui a fait que je penche pour un iPhone. D'ailleurs, on m'a laissé un message comme quoi qui était arrivé. J'irai probablement demain matin et sûrement que je vous en parlerai dans un autre épisode. J'ai eu la chance de l'avoir entre mes mains il n'y a pas longtemps et oui, ça va bien, c'est tout. Donc, j'approche de ma destination, ça fait déjà 33 minutes que je vous parle et puis je pensais faire un petit podcast court de 10-15 minutes, mais non, une belle demi-heure de blabla. Donc, j'espère la prochaine fois vous faire un épisode derrière mon micro cette fois-ci. Mieux installé, plus de musique et bien sûr, un carburant de la semaine que je suis sûr vous vous ennuyez tous. Et moi aussi d'ailleurs, j'en prendrai bien une en ce moment. Donc, je vous dis à très bientôt. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un courriel quebecbalado@gmail.com. Je suis partout sur les internets, Sylvain Grandmaison. Trouvez-moi, devenez mon ami, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. Et je vous laisse avec une chanson de U2 de l'album Maudit, cet album gratuit. La toune qui est l'extrait qu'on entend partout dans les pubs, tout ça. Qui s'appelle The Miracle. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Ciao! Disappear. I was aching to be somewhere near your voice.
was all I heard. I was shaken from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world.
Most beautiful.